que son ennemi juré et vice-président de la fédération, Noël Le Graët.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Sandra Freeman.
Qu'est-ce que l'Inde aujourd'hui entre images millénaires et émergence? Le pays de Gandhi a su s'imposer en usant de son soft power. Ce soir, nous allons décrypter cette société à la fois puissante et douce au travers de sa création. C'est à partir de 21h.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter. Je vous laisse avec Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour, nous sommes le mercredi 18 mai 2011. Cela fait déjà 4 jours que Dominique Strauss-Kahn est détenu à la prison de Riker Island à New York. Ne l'oublions pas.
Oui, Jean-Michel Delacreuse, Sarkozy attend un enfant. Après tout, tant mieux pour lui. Par contre, une chose sûre depuis 2007, des petits dans le dos, ça, il nous en a fait.
Bonjour Daniel, c'est la première fois que je laisse un message, mais je crois que je peux pas faire autrement. Il se passe quelque chose de très étrange dans ma vie depuis quelques temps, c'est-à-dire que je perds peu à peu de vue mes pieds. Ils ont d'ailleurs complètement disparu. Si, je te jure, j'ai beau les chercher, je les vois plus. C'est tellement exceptionnel que mon beau-père a essayé de contacter son quotidien local, mais ça ne les a pas intéressés. Ma mère a fait de même, sans plus de succès. Alors je me tourne vers toi, Daniel. Tu es ma dernière chance d'annoncer à tout le monde que je suis enceinte de 7 mois. Mais c'est peut-être un peu tard parce que je crois que ça commence à se voir. C'est Anne-Sophie de la Vienne et camarade qui est bien cachée, bien au chaud, sous mon nombril.
Bonjour, c'est Cathy en Haute-Garonne. J'appelle suite à l'émission sur Hiroshima et Nagasaki. Et ayant subi un cancer de la thyroïde, peut-être dû à Tchernobyl, puisque j'avais 15 ans à ce moment-là, j'ai été vraiment bouleversée par cette émission et... Il faut que ça s'arrête tout simplement et voilà, je trouve que cette personne qui s'exprimait, cette dame si âgée, qui était encore capable de parler de tout ça, je trouve ça incroyable et heureusement que sa parole existe et merci de la transmettre. Voilà, au revoir et merci pour les émissions. Au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Gilles de Bourget-du-Lac. Je suis en train d'écouter ton émission, j'écoute presque tous les jours et là je suis sidéré d'entendre ça, quoi. Qu'on parle de crimes contre l'humanité, on se demande qui les a commis, on oublie de dire que l'empereur du Japon n'est jamais comparu devant aucun tribunal, c'est un scandale. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas eu plus de bombes pour écrabouiller ces salopards de fascistes nazis qui ont pendant des années écrabouillé la Chine, toutes les îles où ils ont sévi. Donc là, je comprends plus rien. Voilà, salut, au revoir.
Bonjour à tous. J'ai été très émue aujourd'hui, bien sûr, d'entendre parler d'Hiroshima. Le 6 août 45, j'avais 10 ans et j'étais avec mes parents et quelques soldats vietnamiens, commandés par mon père, dans un camp de concentration à Shanghai Kwan, au pied de la Grande Muraille. La passe pour aller en Mandchourie au pied du golfe, à côté du golfe du Pechili, dans un camp, oui. Je me souviens que papa, à l'écoute de notre radio cachée dans des branchages, a couru nous annoncer que la guerre était enfin finie. Enfin l'empereur a abdiqué. Il a fallu ce bombardement pour que le Japon, allié des nazis et des Italiens, capitule enfin. Mais imaginez notre joie d'être libérés. Imaginez notre joie de penser retrouver bientôt notre famille en France, famille dont nous étions sans nouvelles et dont nous étions séparés depuis 1940. Je crois me rappeler qu'avant ce terrible Hiroshima, les États-Unis avaient menacé l'empereur de bombardements terribles pour en finir avec la guerre. Et qui est responsable? Le Japon? Les États-Unis? Et si le Japon avait arrêté la guerre plus tôt? Vous posiez toutes ces questions et je vous en remercie, Daniel, dans votre émission.
Bonjour à toute l'équipe. Merci pour l'émission d'hier, mardi, sur Nagasaki et Hiroshima. Cette monstruosité, cette barbarie, qui, comme le disait si bien cette dame japonaise, une expérimentation sur le vivant. car ces bombardements étaient inutiles puisque la guerre était terminée. Et par la suite, l'empereur, à la tête du Japon, s'est retrouvé en très bonne harmonie, tout à fait dans la ligne des États-Unis, dont le fils a pris la succession aujourd'hui, et il continue la même politique. Alors moi, je pense qu'il faut rompre avec ce qui engendre toutes ces souffrances.
Bon, alors qu'est-ce qu'il va encore nous apprendre, Monsieur Daniel Mermet, au sujet de Hiroshima et Nagasaki ? On le sait bien que la guerre, c'est une connerie. C'est la pire des conneries que l'espèce humaine ait inventée. Bon, à Hiroshima et Nagasaki, le Japon, il avait subi des bombardements dévastateurs, c'est vrai. Mais ça m'étonnerait, il n'avait sûrement pas l'intention de se rendre tout de suite. Pour le conquérir, il aurait fallu accomplir encore des sacrifices en vie humaine comparables à ceux qui avaient été nécessaires pour conquérir les îles du Pacifique, on suppose. Je crois qu'il était question de dire qu'au moins 400 ou 500 000 soldats américains auraient été nécessaires, il aurait été nécessaire d'en tuer encore 400 ou 500 000 pour arriver à conquérir le Japon. Et à supposer que chacun d'entre eux, avant de mourir, ait tué deux Japonais, ça ferait au moins 800 000, peut-être 1 million de Japonais qui seraient morts. Alors, vu sous cet angle-là, on peut dire que les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, elles ont tué 250 000 personnes. Ça veut dire qu'elles ont sauvé la vie à 750 000 Japonais. Allez, ciao.
Ouais, c'est arithmétique un petit peu discutable, enfin, qui prête à controverse. En tout cas, c'est ce qui prévalait dans le discours du président américain Truman et dans ce qui s'est dit après le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, qui a été ressenti et vécu aux États-Unis comme une victoire et comme une fête extraordinaire. Le temps est passé, les témoignages sont là, on va en entendre à nouveau aujourd'hui. L'histoire a été écrite, les recherches nombreuses, et aujourd'hui quand même, la controverse, on le voit, persiste, mais pour l'essentiel, on sait aujourd'hui que le bombardement atomique n'était pas indispensable pour contraindre le Japon à capituler. En août 45, l'armée impériale était vaincue, la marine était anéantie, l'aviation pratiquement réduite au pilote suicide, les défenses aériennes effondrées, la dénonciation du pacte de non-agression par l'URSS scellait le sort du Japon et ses dirigeants le savaient. Le bombardement de Hiroshima, suivi de celui de Nagasaki, avait d'autres motifs dont la suite a montré l'origine et le but. Mais, on le voit, la controverse persiste. Voilà pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui jusqu'à 16h dans la base, si j'y suis, à Hiroshima. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Mercredi 18, c'est le troisième mercredi du mois. Donc, on se retrouve pour notre rendez-vous habituel des amis de la base, si j'y suis, à l'Estaminet, comme d'habitude, à 20h30, à Verdun. Et le thème de la soirée, c'est l'immigration. Donc on aura la chance d'accueillir des membres de plusieurs associations qui s'occupent de la question sur Verdun et les alentours de Verdun, le nord de la Meuse. Voilà, donc bienvenue à tous, venez nombreux, ça risque d'être intéressant, et merci.
Salut Daniel, c'est Franck du Havre. Donc, l'histoire a montré que le Havre a été de nombreuses fois le départ de manifestations monstrueuses contre le capitalisme, et nous allons remettre ça ce week-end. Avec des manifestations, des forums, un village autogéré, des concerts, des meetings, et encore beaucoup d'autres choses. Alors, tous avec nous ce week-end contre le G8. Plus de renseignements sur le site mobilisationg8g20.org.
Bonjour AMG du nord de Lyon, de Sens à Montreux. Venez nous rejoindre à la deuxième réunion du repère de Là-bas si j'y suis, à Pont-sur-Yonne, au Baroque Café, 4 rue du Pont, jeudi 19 mai à 20h. Merci.
Bonjour, je suis enseignante dans une école de REP dans le nord de l'Isère. Dans notre petite ville, il y a un centre de demandeurs d'asile, un CADA, et les enfants qui y séjournent sont scolarisés dans mon école. Régulièrement, c'est la valse des enfants au gré des informations à la télé et des catastrophes du monde. Les familles que nous rencontrons par le biais de notre métier PASS trouvent des issues positives à leur situation ou subissent des refus gérés jusqu'à présent par les pouvoirs publics. Or, depuis quelques mois, nous sommes confrontés à une situation insupportable. De plus en plus de familles sortent du CADA avec une réponse négative, mais sans aucune prise en charge de la part des pouvoirs publics, des mairies, des conseils généraux. Tout le monde se renvoie la balle, profitant du flou juridique dans lequel ces gens sont plongés. Pour plusieurs familles, l'école devient le dernier lieu vers lequel se tourner. Nous, instits, nous sentons impuissantes, désespérées. Nous ne supportons pas la violence de ces situations qui obligent des familles à dormir dans leur voiture. Tous les jours, nous alertons le Conseil général, les mairies, les associations, le 115. Tous sont débordés, usés et sans plus de solutions que nous. Dernière proposition proposée, séparer les enfants des parents pour au moins prendre en charge les plus jeunes ou envoyer les familles dormir à la gare. C'est un appel à l'aide. Si quelqu'un est en mesure de nous apporter une solution, merci de nous téléphoner. Vous pouvez nous joindre au 06 07 03 57 23. Merci d'avance. Salut.
Il n'y avait plus de ville, il n'y avait plus que les restes d'un immense brasier. La ville entière avait été réduite en cendres en quelques heures. Je pouvais voir la baie d'Hiroshima dans la clarté du jour d'été. Seules quelques ruines masquaient encore par endroits la mer scintillante. En longue file, des gens marchaient, cherchant leurs amis ou leurs parents au milieu de la fumée fine qui couvrait la ville. Nul ne pouvait alors prévoir que beaucoup de ceux qui étaient venus à Hiroshima mouraient plus tard, victimes de radiations résiduelles. Extrait de Little Boy, récit des jours de Hiroshima, Dr. Shuntaro Hida.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base J'y suis avec Guy Vanctil. De Hiroshima à Fukushima, ce qui devait arriver arriva. Ben, c'est extraordinaire, hein? C'est une immense photo d'Hiroshima quelques jours après. Il reste rien. Rien là. 2, 3, 4 bâtiments en béton qui sont restés, là quelques autres, et tout le reste est rasé. C'est pas sans rappeler les villes détruites par le tsunami, hein, au nord-est du pays. Sauf que là, c'était pas un tsunami. C'est invraisemblable. Mais c'est un périmètre énorme, hein. C'est un périmètre énorme, jusqu'à l'horizon, c'est détruit. Alors le commentaire qu'ils ont donné aux touristes, aux visiteurs, c'est que ça a donné le désir de paix. C'est-à-dire que si tu veux la paix, envoie des bombes atomiques. Quoi, fais la guerre, puis envoie une bombe atomique, et ça va donner au monde le goût de la paix. C'est ça quand même ça, le sens idéologique de ce musée. C'est d'arriver à retourner complètement les choses et de dire que grâce à la bombe atomique lancée par les États-Unis sur des populations civiles, eh ben, on a eu la paix. C'était un geste de paix. Balancer une bombe atomique, c'était pour la paix. Temps superbe au-dessus d'Hiroshima ce 6 août 1945 à 2h30 local. Le bombardier B-29 Enola Gay décolle de l'aéroport militaire américain de Tinian dans les îles Mariannes. Le commandant Tibet, qui s'entraîne depuis des mois à cette mission, est le seul de l'équipage à connaître la nature de la bombe de 4 tonnes qu'il transporte dans ses soutes. À 8h15, la bombe est larguée sur Hiroshima. Elle explose 45 secondes plus tard, à 600 mètres d'altitude, au-dessus du centre de la ville. Pour la première fois dans l'histoire humaine, la matière se métamorphose en une colossale énergie. La température atteint plusieurs centaines de millions de degrés, la pression plusieurs millions d'atmosphères. La première bombe atomique que les Américains ont baptisée Little Boy, petit garçon, a recréé les conditions qui règnent à l'intérieur du Soleil, mais c'est un soleil de mort. Dès le premier millionième de seconde, l'énergie thermique est emportée dans un flash de lumière blanche éblouissante par des rayons X qui transforment l'air en une boule de feu. D'environ 1 kilomètre de rayon et de plusieurs millions de degrés, planant quelques secondes sur Hiroshima, et par une onde thermique qui se propage à la vitesse de la lumière, brûlant tout sur son passage. Au sol, la température atteint plusieurs milliers de degrés sous le point d'impact, dans un rayon de 1 km. Tout est instantanément vaporisé et réduit en cendres, jusqu'à 4 km de l'épicentre. Bâtiments et humains prennent feu spontanément. Les personnes situées dans un rayon de 8 km souffrent de brûlures du troisième degré. Vous connaissez ces descriptions, vous connaissez ces images, il y a énormément d'images sur Hiroshima. Maintenant, l'intérêt, c'est de comprendre quelles étaient les intentions politiques du gouvernement américain de l'époque. Dans quelle logique politique était ce pays, dans sa compétition avec l'URSS, dans sa hâte à finir la guerre, dans son ambition à maîtriser l'arme absolue, c'est-à-dire l'arme nucléaire. Quelques semaines avant le bombardement sur Hiroshima, puis 3 jours plus tard sur Nagasaki, c'est à Alamogordo, aux États-Unis, que fut expérimentée la première bombe, décevante en grande partie parce que on ne pouvait pas mesurer les effets sur les êtres humains, mais réussite formidable pour les scientifiques nombreux qui avaient travaillé à ce projet qui avait coûté si cher aux États-Unis d'Amérique. Mais tout de même, lorsque tout le monde applaudissait cette réussite, cette première réussite, il s'est trouvé un certain Kenneth Bainbridge, qui était le responsable de l'essai, et qui a déclaré ceci: maintenant, nous sommes des salauds. C'est là-bas que j'y suis jusqu'à 16h à Hiroshima.
Like play a peace title. Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me.
On an August morning, Hiroshima had no premonition of its fate. On Tinian Island in the Marianas, a B-29 named the Enola Gay prepared to make the first atomic bomb run. Over Hiroshima and Nagasaki, the course of world history took a new turn. The new weapon blasted the enemy completely out of the war. Japan no longer had the will to fight.
Don't let him drop that bomb on me. Oh Lord, oh Lord. stop it. Don't let them drop it. Stop it. Bebop it.
Nous vous prions, Seigneur, pour que cette guerre prenne fin vite et que la paix règne à nouveau sur la terre.
Enregistrement à bord de l'Enola Gay, avion qui lança la bombe sur Hiroshima le 6 août
1945. Prenez sous votre protection les hommes qui seront dans cet avion ce soir, qu'ils nous reviennent sains et saufs.
We shall go forward, trusting in thee.
Nous irons jusqu'au bout avec toute notre foi en vous.
Knowing that we are in thy care now and forever.
Nous savons que nous sommes sous votre protection, aujourd'hui et pour toujours.
In the name of Jesus Christ, amen.
Au nom de Jésus-Christ, amen.
Nakanishi Iwao.
Je m'appelle Nakanishi Iwao.
Alors, on vous rencontre au musée d'Hiroshima. Vous étiez à Hiroshima le 6 août 1945.
Oui, j'étais à Hiroshima, j'avais 15 ans à l'époque.
J'étais à 2700
mètres du lieu de l'explosion. J'étais collégien à l'époque, je travaillais pour l'armée.
私はあの幸いにこの頑丈な建物の影でしたからね、全然怪我もやけどもしていなかったんです。
Par une chance, j'étais dans un bâtiment en béton solide, donc j'étais protégé de cette explosion.
Est-ce que 66 ans après, vous vous souvenez de ce que vous avez vu?
それはもう忘れることはできません。忘れたいんですけども、忘れることもできません。
C'est inoubliable, mais j'ai envie d'oublier.
そうですね。それから夕方まで、その、ま、1000人ぐらいの人が、あの、重傷を負った人をですね、介護としたんです。みんな水をくれ、水をくれって言ってね、みんな苦しんで、次々に死んでいかれました。
Où j'étais, il y avait des milliers de gens qui étaient en train de mourir et qui me demandaient de l'eau au secours.
特にあの、忘れられないのはですね、赤ちゃんを抱いたお母さんがね、 上の方がもう真っ赤になって焼けどでね、赤ちゃん死んだと思える赤ちゃんを抱きしめてね、座り込んでね、狂ったようにね、赤ちゃんをこう揺すっておられたんですけどね、それが忘れられないですね。
J'arrive pas à oublier une mère qui était avec son bébé, qui me semblait être tuée déjà, et la mère était brûlée, elle avait la peau partout rouge, et elle était en train de secouer son bébé pour le réveiller, comme si elle était devenue folle. Et cette image, elle me quitte plus depuis.
さっきあの下であの大きなあのお写真を見られましたかね、 2000 メートルのところ、そこへ私はそれからあと行ったんです。あの写真の通りだったというか、あのあれよりもまだまだ。
Vous avez vu la grande photo en bas du musée, l'état de Hiroshima, c'était encore pire que la photo.
La photo montre une ville, un désastre. Jusqu'à l'horizon, la ville est détruite. La ville est entièrement détruite. Il reste un morceau de pont, deux, trois bâtiments, dont le fameux bâtiment, la chambre de commerce avec ce dôme qui reste. Et puis c'est tout.
Là,
c'est une photo du champignon nucléaire d'Hiroshima.
Voilà, vous voyez, à cet endroit-là, la température sur la Terre, il était environ 4000 degrés. Ici où on est, il y avait 3000 degrés. Et donc, l'endroit où j'étais, il y avait au moins 1000 degrés. Je suis revenu le lendemain avec ma mère dans le centre de Hiroshima à la recherche de nos proches. Il y avait des débris, il y avait la fumée, puis il y avait des cadavres partout.
3時間ぐらい歩き回ったんですが、非常に恐ろしいありさまですからね。
Ça sentait mauvais et j'ai commencé à avoir peur. Donc j'ai décidé de partir vers le nord du Japon. Je croyais m'échapper au problème de santé et la terreur de bombardement, mais dizaines de jours plus tard, j'ai commencé à avoir des problèmes sur mon corps. Alors mes gencives saignaient, je commençais à avoir des taches sur ma peau et j'avais un vertige. C'est ce qu'on appelle les symptômes des irradiés aujourd'hui.
Au fil des heures, les subibondes tombaient malades par groupes de 7 ou 8, puis ils mouraient à peu près en même temps. Plus tard, j'ai compris que ceux qui mouraient ensemble s'étaient trouvés au moment de l'explosion à égale distance de son épicentre, ce qui signifie qu'ils avaient reçu une dose sensiblement similaire de radiation. En fait, ces hommes et ces femmes qui moururent par séries successives confirmaient la loi qui régisse la physique nucléaire, comme l'auraient fait de simples cobayes irradiés expérimentalement. Mais dans les premiers jours, nous ignorions la véritable cause de l'épidémie. Extrait de Little Boy, récit des jours de Hiroshima, Dr. Shuntaro Hida.
Et 66 ans plus tard, aujourd'hui, Little Boy, la bombe tue encore. Parce que il y a la mort immédiate, mais il y a les cancers. Et la diversité des effets de la bombe ne permet toujours pas de dénombrer le nombre des victimes avec précision. Selon les estimations officielles, 350 000 personnes étaient présentes à Hiroshima le matin du 6 août 1945. La quasi-totalité de celles qui se trouvaient dans un rayon de 1 km autour du point d'explosion sont décédées sur le coup ou dans les 4 mois qui ont suivi. La bombe aurait fait 140 000 victimes jusqu'en décembre 1945, un chiffre qui est très approximatif et très discuté étant donné le désordre qui régnait à ce moment-là. Mais après cette date, les recensements sont encore plus délicats à établir et le nombre de victimes ne sera jamais connu. Ce qui reste de physiquement d'Hiroshima après la bombe, c'est ce fameux dôme qui est aujourd'hui le point de mémoire qui a été conservé. Mais il y a un bâtiment dont on parle beaucoup moins et qui a tenu le coup. C'est le bâtiment de la Banque du Japon qui a résisté à la bombe et qui a rouvert 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, la banque était à nouveau ouverte au milieu d'un paysage d'apocalypse, au milieu des cadavres et des survivants qui erraient parmi les ruines. Donc, Little Boy tue toujours, aujourd'hui, rencontre accidentelle avec un pathologiste, le docteur Iwamoto.
I am a pathologist, Dr. Iwamoto.
Dr. Iwamoto, pathologiste.
Une question très simple. Vous êtes pathologiste, on est ici à Hiroshima. On voulait savoir si aujourd'hui, 66 ans après que la bombe ait éclaté au-dessus d'Hiroshima, vous avez des séquelles issues de cette explosion.
First 5 years, we had a special cancers, like a thyroid cancer and acute leukemia.
Dans les 5 premières années suivant le bombardement, il y a eu des certains types de cancers très spécifiques, la thyroïde et un type de leucémie très spécifique.
But after 5 years and 10 years, we experience more cancers among A-bomb survivors. So
après, dans les 5 et 10 ans qui ont suivi, là, c'était plus des cancers si particuliers, mais simplement une hausse du nombre de cancers en général parmi les survivants du bombardement d'Hiroshima.
But we notice also chronic leukemia,
des leucémies chroniques, des myélomes,
frequent among the A-bomb survivors,
qui étaient particulièrement fréquents parmi les survivants de la bombe atomique.
Votre père et votre mère sont des survivants.
Father, A-bomb survivor.
Mon père,
died,
oui.
Of multiple myeloma.
Il est mort d'un myélome, c'est-à-dire cancer du poumon.
About
en particulier.
30 years ago.
Il y a 30 ans de ça.
And my mother suffered for a long time leukopenia. It's a decrease of white cell count.
Et ma mère, pendant des décennies, a souffert d'une forme d'anémie qui est due à une très grande baisse du nombre de cellules de globules blancs.
At present, our problem is I am a second generation A-bomb survivor.
Et moi qui suis un seconde génération des survivants de la bombe atomique.
We don't know what kind of effect we have.
Et on ne sait pas quels sont les effets sur nous.
You know, it's a radiation destroys genes.
Parce que
DNA.
Oui, les radiations détruisent l'ADN dans les gènes.
So it's very hard to say, but it is possible, and we have to study about it.
Les radiations détruisent l'ADN, détruisent les gènes. C'est très difficile à savoir. Il y a donc des études en cours.
Le 5 août 1945, la première bombe atomique est sortie de son hangar d'assemblage.
TF1.
Quelques savants et officiels sont opposés au largage de cette bombe sur le Japon sans avertissement préalable.
6 août 1985.
Mais, décision finale, nous n'avons pas le choix, disent les Américains. Il faut que le Japon se rende. À 8h15 exactement, le matin du 6 août, la bombe va être larguée sur Hiroshima.
What I was told to do, and I must have to add this.
Paul Tibbets.
I have no regrets.
Pilote de l'Enola Gay.
J'ai fait ce que l'on m'a dit de faire, et je dois ajouter ceci, je n'ai pas de regrets, et je n'ai jamais perdu une nuit de sommeil depuis. Je me suis dit en moi-même, il n'y a aucun moyen pour qui que ce soit de résister à une telle arme, et avec cette pensée en tête, j'étais convaincu que j'atteindrais ma cible, que nous gagnerions, et que nous conduirions la guerre à sa fin en sauvant de nombreuses vies. Je reconnais aussi l'envers de l'histoire. Il fallait sacrifier beaucoup de vies humaines, mais c'est le prix de la guerre.
Là, on est dans un des endroits les plus pathétiques et les plus névralgiques du monde, probablement, en tous les cas de l'histoire récente. On est près du A-bomb dome, ce qui reste de la ville d'Hiroshima. C'est ce bâtiment qui est devant nous, qui est devenu un lieu de mémoire. C'est la ruine d'un bâtiment qui était la chambre de commerce d'Hiroshima à l'époque. Et on vient se recueillir là, au bord de cette rivière. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Et il y a des visiteurs qui se promènent et qui viennent réfléchir là. Et nous sommes avec le professeur Mitsuo Okamoto, professeur émérite de l'université Chūdō d'Hiroshima. Mm-hmm. Et alors, on veut tout savoir sur Hiroshima. La chose la plus importante pour vous, qu'il faut...
L'histoire de la bombe, c'est la chose la plus importante. People in other parts of the world know the nuclear power only as the energy.
Ailleurs dans le monde, les gens ne connaissent du nucléaire que l'énergie qu'il produit.
Et
la partie négative de la chose se résume aux accidents.
The primary purpose of the nuclear energy was the military use.
Alors que le principal objectif du nucléaire, c'était à l'origine son utilisation militaire.
So the so-called peaceful use of nuclear energy is only a byproduct to make the world governments allow the existence of nuclear energy.
Le soi-disant usage pacifique du nucléaire n'est qu'un produit dérivé qui a permis au pouvoir du monde d'imposer, d'utiliser, de justifier l'usage du nucléaire.
Voilà l'analyse du professeur Ezio Okamoto. Il faut rappeler une chose, c'est la façon dont l'explosion, la bombe d'Hiroshima et celle de Nagasaki ont été perçues dans le monde. J'évoquais la façon, l'explosion de joie aux États-Unis et en France. Eh bien, en France, dans le journal Le Monde, daté du 8 août 1945, on évoque une révolution scientifique. Les Américains lancent leur première bombe atomique sur le Japon. On reprend la déclaration du président Truman et on s'intéresse très peu aux résultats humains et à la catastrophe humaine que cela représente et au massacre de populations civiles, d'hommes, de femmes et d'enfants. Vous l'avez entendu, pour Mitsuo Okamoto, le nucléaire civil, pour lui, il n'est pas le seul bien sûr à analyser les choses de cette façon, le nucléaire civil permet de conserver le nucléaire militaire et s'oppose à la dénucléarisation, s'oppose à la possibilité d'en finir avec les armements nucléaires et la limitation des armements nucléaires. C'est une analyse qu'on retrouve souvent et qui évidemment n'est pas partagée par tout le monde. Areva,
qui est responsable? Nous considérons que la principale acteur, c'est-à-dire le gouvernement américain, était responsable. From the military strategic point of view,
et d'un point de vue de stratégie militaire pure,
Japan was already defeated.
Le Japon était déjà vaincu.
In the summer of 1945.
Et ça dès l'été 1945.
The islands of Okinawa were occupied by American army. Most of the Japanese major cities, Tokyo, Osaka, Kobe, Nagoya, Yokohama, they're all bombarded.
Les îles de l'archipel d'Okinawa étaient déjà occupées par les troupes américaines et la majorité des grandes villes japonaises comme Tokyo, Osaka, Kobe, Yokohama étaient bombardées massivement.
But they wanted to use the bomb because they can use it only during the war. If the war was over, they would have no chance.
Mais s'ils voulaient utiliser cette nouvelle arme, il fallait bien l'utiliser pendant la guerre, puisque si la guerre était finie, ils n'auraient plus d'occasion de s'en servir.
They knew the power of atomic weapon, which was already experimented in Los Alamos.
Ils connaissaient déjà la puissance de l'arme nucléaire, telle qu'elle avait été expérimentée dans le camp d'expérimentation de Los Alamos.
But the use of it on a human city against the human being. They cannot make an experimentation.
Mais ils n'avaient pas eu l'occasion de faire une expérience sur les conséquences de l'usage de cette arme sur une vraie ville avec des vrais gens.
Hitler's Germany surrendered already on May 8th.
L'Allemagne hitlérienne avait déjà capitulé le 8 mai 45.
They could not use the bomb against Hitler's Germany.
Donc on ne pouvait plus utiliser la bombe atomique contre l'Allemagne nazie.
They spent enormous amount of money to develop this weapon, and American public opinion would be very much against the American military if the war ends without using this new weapon which cost so much.
Il y avait des quantités énormes d'argent qui avaient été dépensées sur ce projet militaire, et si la guerre s'était finie sans que cette arme ait servi à quoi que ce soit, il y aurait eu des risques de critique au sein de l'opinion publique américaine sur la quantité d'argent dépensée ainsi pour rien.
So I still think that the decision of the US government to use this inhumane bomb against Japan was criminal.
Et donc je pense encore que le choix de l'armée américaine d'utiliser cette bombe inhumaine contre les populations, ce choix était, je le pense, criminel.
If you know there is a third party like watching us from the star or something.
Parce que imaginons qu'il y ait un observateur qui nous regarde de tout là-haut dans les étoiles.
I think just like Japanese generals were criminalized and punished, some of them were hung to death.
On verrait bien que même si pendant le tribunal de Tokyo, beaucoup des généraux japonais ont été jugés, considérés comme des criminels et même pendus à l'issue de la guerre.
So if this third party was in full power, they not only hanged Japanese generals, but they also hanged American president and American
Je pense que cet observateur, cette partie supérieure, s'il avait vraiment une marge de manœuvre, non seulement il aurait pendu les généraux japonais, mais aussi le président américain.
Donc vous considérez, non mais sérieusement, vous considérez, pour vous, il s'agit d'un crime contre l'humanité.
I think so. Crime against humanity.
Oui, je pense que c'est ça, un crime contre l'humanité.
Les Américains, secondés par des Japonais, se livre à des recherches médicales et biologiques
France 3
sur les victimes des irradiations.
12 juillet 1995.
Il crée pour cela, au centre d'Hiroshima, ABCC, une commission chargée d'étudier les conséquences de la bombe atomique.
Docteur Kenjiro Yokoro.
Au début, pour faire venir les victimes et pouvoir les examiner,
médecin à Hiroshima.
Les Américains ont dit qu'ils leur donneraient de la nourriture. Ainsi, ils ont attiré à eux mes clients. Je me suis mis en colère quand j'ai appris que mes clients revenaient de chez eux sans traitement. À Abyssissi, ils leur prenaient seulement du sang.
Les victimes, qui sont filmées avec soin, ont vite compris qu'elles servaient de cobayes aux chercheurs américains qui ne leur prodiguent aucun soin.
C'est sans doute l'aspect le plus consternant de cette histoire, enfin des suites de l'explosion de la bombe, c'est cette institution ABCC installée par l'armée américaine de façon non pas à guérir ou aider ou traiter en quoi que ce soit les survivants, mais uniquement pour les étudier, les examiner exactement comme des cobayes. Hier, on a rencontré Monsieur Seigo Nishioka, qui est un Ibakusha, c'est-à-dire un survivant, et qui, lui, comme tous les autres survivants, devait régulièrement se rendre aux visites obligatoires des IBCC. Mais dans les années qui ont suivi, est-ce que les Américains qui étaient là s'occupaient de vous ?
Pas du tout, oui. Ils nous ont traités comme des animaux. Deux, trois ans après le bombardement, il y a l'ABCC qui est arrivé à Hiroshima. Donc l'école m'a amené.
ABCC, il faut rappeler ce que c'est une institution qui avait été installée ici à Hiroshima pour étudier les conséquences de la bombe atomique sur les populations, mais sans aider du tout les populations. C'est ça ?
Pas de soins du tout.
Uniquement pour vous examiner, pour voir quelles étaient les conséquences, c'est-à-dire comme on étudie un cobaye.
Oui.
Ça, c'est votre dossier dressé par IBCC. Voilà, il y a un croquis qui vous représente. Il représente les endroits où vous avez été blessé. C'est très, très précis.
Et là, on voit le questionnaire du patient numéro E151 en date du 19 juillet 1947. Il s'est rempli d'une écriture typiquement américaine et qui dit le nom en anglais, Nishioka Seigo, sexe masculin, le nom en japonais, son adresse, âge, il avait 15 ans à l'époque, sa date de naissance, 25 octobre 31. Est-ce qu'il a été précédemment examiné par les Américains ? Non. Histoire d'irradiation, ça commence immédiatement par ça. Location au moment de la blessure, la zone 17A. Protection, est-ce qu'il était assis, est-ce qu'il était allongé ou est-ce qu'il était debout ? Est-ce qu'il était à l'intérieur ou à l'extérieur ? Quel type de bâtiment était-il ? En brique, en bois, un bâtiment japonais ? Est-ce qu'il était dans un abri souterrain ou un abri en béton ? Est-ce qu'il était à l'extérieur ? Oui. Est-ce qu'il était protégé par un objet ? Non. Comment était-il habillé au moment de l'accident ? Il avait des manches longues et un pantalon kaki. Où était-il dans le mois qui a suivi le bombardement, à l'intérieur du pays ? Quelles ont été ses blessures ? Brûlures, par flash ? A-t-il d'autres blessures ? Par verre pilé, par des débris qui lui tombent dessus, etc. ? Non. Et après, la question numéro 10, effet de la radiation. Nausée, malaise, gingivite, diarrhée, vomissement, anorexie, perte des cheveux. Et ça continue avec traitement depuis le bombardement. C'est-à-dire là, on est près de 2 ans après, il y a écrit traitement qu'il a subi, huile. C'est tout. Le rapport suivant, quelques semaines après, quelles sont les anomalies, etc. Et ça continue comme ça pendant des pages et des pages. Là, on voit 16 janvier 49. En juin 49, on voit des graphiques sur l'évolution de ses cicatrices sur le visage et l'oreille. Après, on est maintenant février 1950. La peau sur le côté gauche du visage et sur la main a pelé. Les cicatrices sont encore douloureuses. Des décharges purulentes qui suintent des plaies, et ainsi de suite.
Mais encore une fois, il s'agissait d'examiner, je ne sais quelles conclusions scientifiques ont été tirées de ces recherches, mais il s'agissait exactement des mêmes analyses qu'on fait sur des rats de laboratoire ou des cobayes.
Je me sentais humiliée, mais j'avais chance d'être enfant, parce que quand on est adulte, l'examen était beaucoup plus dur.
Parlez-nous de ABCC, cette institution qui avait pour but d'examiner les victimes du bombardement. Les Ibakusha ont été observés comme des cobayes humains par ABCC.
That's right, exactly.
C'est exactement ça.
Exactly.
Docteur Okamoto Mitsuo, professeur à l'université d'Hiroshima.
ABCC was built in Hiroshima to make research on the victims in order to invent a defense system for American people and American soldiers.
ABCC a été créé ici à Hiroshima pour utiliser les victimes d'Hiroshima afin d'étudier des mesures de protection pour les soldats et pour les citoyens américains en cas d'attaque nucléaire sur leur sol.
That's the primary purpose of ABCC.
C'était ça le principal objectif d'ABCC, c'est-à-dire Atomic Bomb Casualties Committee, c'est-à-dire le comité pour l'étude des dégâts de la bombe atomique.
Et ce qui est frappant dans votre mémorial, là, dans le musée, il y a des documents très intéressants, mais c'est la conclusion. C'est de dire, grâce ou à cause de cette bombe, la paix est venue au Japon. C'est-à-dire que ça illustre parfaitement George Orwell, 1984. La guerre, c'est la paix.
American influence.
C'est ça l'influence américaine.
Vous rigolez, mais il y a des milliers et des milliers de jeunes Japonais qui viennent dans ce musée, des visiteurs du monde entier qui viennent dans ce musée, et qui repartent avec cette idée, merci la bombe.
Merci la bombe.
août 1945. Autre constatation, plutôt effrayante. Tous les rescapés sont incapables de prendre quoi que ce soit au sérieux. Le mur fleurit de jour en jour sur ces lieux de dévastation, comme s'il était l'ami de la mort. Le journal de docteur Michihiko Hachiya, 1951.
D'abord, il faudrait essayer de décrire le lieu où on est. On est au centre d'Hiroshima, à l'endroit même où la bombe atomique n'est pas tombée, mais elle a explosé au-dessus de l'endroit où nous sommes le 6 août 1945, et là, on est dans le mémorial pour la paix. Et on est avec M. Kiala Shoji, il est fils d'irradié. Ses parents sont ce qu'on appelle les Ibakusha, c'est-à-dire qu'ils ont été irradiés au moment de l'explosion de la bombe ici, et Kiala Shoji est un militant antinucléaire. Notamment, il est investi dans la lutte que mènent les habitants de la toute petite île d'Iwaishima contre un projet de construction d'une centrale nucléaire sur l'île voisine. Et ce qui nous intéresse, c'est le lien qu'il représente entre Hiroshima et Fukushima, c'est-à-dire entre 1945 et 2011. Quel lien entre Hiroshima et Fukushima ? Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est être un Hibakusha, ou du moins un fils d'Hibakusha pour ce qui vous concerne ?
Tout d'abord, c'est le souci permanent sur la santé.
Et
Si soucier comment ses parents vivent, si meurent à cause de cet effet nucléaire. Donc, la mission pour moi, en tant qu'un irradié, c'est d'être opposé aux centrales nucléaires.
Le 26 octobre de chaque année, au Japon, on célèbre la mise en fonction de la première centrale nucléaire. Donc, il y a des antinucléaires, mais le lobby pro-nucléaire est très puissant.
Effectivement, ils sont puissants. Vous savez, les constructeurs des centrales nucléaires, ce sont des Toshiba, des Mitsubishi, Hitachi, et des sociétés d'électricité des différentes régions, ils ont énormément de pouvoir.
Alors, vous avez cité Toshiba, Mitsubishi,
Hitachi.
Et Hitachi. C'est les trois marques mondiales que les Français connaissent. Hein? Or, ces trois grandes marques, ces trois très grandes entreprises, trois très grandes multinationales qui sont au cœur même du lobby nucléaire japonais.
Tout à fait, ils sont énormément puissants, notamment Toshiba, qui essaye d'être exportateur de la technologie nucléaire pour l'Asie. Vous savez, l'ex-ministre de l'économie et de l'industrie, M. Ohata, il travaillait pour Hitachi en tant que concepteur d'une centrale nucléaire. Et aussi, le ministère de l'économie et de l'industrie, c'est la puissance qui gère l'industrie nucléaire au Japon.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un lien total entre les grandes compagnies japonaises et le gouvernement japonais à travers ce ministère de l'économie et de l'industrie, qui s'appelle le METI, qui est un état dans l'état et qui est au-dessus du pouvoir politique.
Donc, le président de la Fédération régionale des entreprises, c'était toujours quelqu'un de l'industrie d'électricité qui était en tête. Donc, depuis après la guerre, c'était toujours le cas dans cette région. Mais je pense que c'est aussi le cas dans d'autres régions au Japon.
De Fukushima à Hiroshima, de Hiroshima à Fukushima, ce qui devait arriver. Arriva. C'était un reportage avec Yvan Thiel. Merci à tous, à nos monteuses, Agnès Lebot et Marina Touyez. Merci à Nakanishi Iwao, Okamoto Mitsuo, Seigo Nishioka. Merci au docteur Miyato, à Shoji Kihara, à Toshiki Mashimo, ainsi qu'à Miguel Quintana et Colin Kobayashi. C'est Yuki Takahata qui a lu des extraits de Little Boy du docteur Shuntaro Ida, qu'on retrouvera demain, le docteur Shuntaro Ida. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez, vous devez la réécouter sur labas.org, la-bas.org, la technique aujourd'hui. Rémi Quincé et Maxime Anna. Koy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, incité d'Agnès Lebot et Marina. Attends vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
On fait quoi?
Ça dépend.
C'est combien le montant d'une jackpot loto de ce mercredi?
16 millions d'euros.
16 millions d'euros?
Ouais. Bon, ben on va jouer. Hein.
Ok, je te suis.
Montant à partager entre les gagnants du premier rang.
Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Paul, lâche ta sœur et va prendre ton bain. Léa, en pyjama, sinon on n'aura pas de temps pour une histoire. Maman va bientôt rentrer, alors on est sage.
Maman! Alors, tout va comme tu veux?
Ah non, j'en peux plus. Ah, je vais faire ma télédéclaration, tiens, ça va me détendre. Ça au moins c'est facile.
Déclarer ses revenus sur impots.gouv.fr, c'est simple, rapide et sécurisé. La télédéclaration, pensez-y, ça vous simplifie la vie.
Et voilà, une bonne chose de faite.
Ceci est un message du ministère chargé du budget.
France Inter présente The Tree of Life, le nouveau film écrit et réalisé par Terrence Malick avec Brad Pitt et Sean Penn, sélection officielle au Festival de Cannes.
Unless you love.
Jack se remémore son enfance, les moments partagés entre ses frères, l'amour de sa mère et l'autorité d'un père obsédé par la réussite. Il se laisse envahir par les souvenirs du passé.
Your life will flash by.
Retrouvez le nouveau voyage de Terrence Malick, The Tree of Life, actuellement au cinéma, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
16h pile poil, on se retrouve demain à 15h pour la basse où j'y suis. Les infos, Corinne Audouin, salut.
Dans l'affaire DSK, on commence à en savoir un peu plus sur les intentions de la défense et de l'accusation. La femme de chambre de l'hôtel Sofitel de New York, qui accuse Dominique Strauss-Kahn de l'avoir agressé, niera catégoriquement avoir eu avec lui une relation sexuelle consentie. C'est ce qu'a dit son avocat Jeff Shapiro à la chaîne de télévision américaine NBC. « Il n'y a rien de consenti dans ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel », a-t-il insisté. Et concernant la succession de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI, l'un de ses avocats, William Taylor, a refusé de dire quelles étaient ses intentions quant à une éventuelle démission. En tout cas, d'ores et déjà, un porte-parole du gouvernement allemand estime qu'il existe en Europe de nombreux candidats très qualifiés pour diriger l'institution. L'Afrique du Sud demande, elle, que le prochain directeur du FMI soit issu d'un pays en développement. Alexandre Guérini est sorti de prison, mis en examen dans l'affaire des marchés publics frauduleux des Bouches-du-Rhône. Le chef d'entreprise et frère du président socialiste du Conseil Général Jean-Noël Guérini était écroué depuis 5 mois à la prison de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Alexandre Guérini est sorti peu avant 14h. Sa remise en liberté s'accompagne d'un contrôle judiciaire. Un pas dans la difficile transition de la Tunisie vers la démocratie. Le couvre-feu allégé qui était encore en vigueur à Tunis et dans sa banlieue est levé à partir d'aujourd'hui. Nicolas Sarkozy a assuré le Premier ministre tunisien Beji Caïd Essebsi, qui était de passage à Paris, de sa volonté d'aider le pays dans cette période délicate. La colère des Afghans contre l'OTAN s'amplifie. Le président Hamid Karzai condamne l'opération menée hier par l'Alliance Atlantique dans le nord-est du pays et qui a fait 4 morts, 4 membres d'une même famille, selon lui. Selon les forces de la coalition, il s'agissait d'insurgés armés. En réaction à cette opération de l'OTAN, des milliers d'Afghans se sont rassemblés ce matin dans la ville de Talokan en scandant « Mort à l'Amérique ». Ils ont tenté de prendre le contrôle d'une base militaire étrangère. Les forces de sécurité afghanes ont ouvert le feu. Il y aurait au moins 12 morts et 80 blessés. Le corps découvert dimanche dans le Var est bien celui de Colette de Rome. Les analyses ADN l'ont confirmé. Cette quinquagénaire avait disparu depuis 1 mois de son domicile de Lorgues. L'autopsie n'a pas permis d'expliquer les causes de la mort. On attend des expertises complémentaires. Les enquêteurs privilégient la thèse criminelle. La candidature d'Annecy au JO de 2018 ne présente aucun problème majeur. C'est en tout cas ce qu'estime Jean-Claude Killy, promoteur de cette candidature et également également membre du CIO. Le dossier d'Annecy a été présenté pour la première fois à l'ensemble des membres du Comité international olympique réuni à Lausanne. Les hommes politiques sont de vraies bêtes sexuelles. La phrase est prononcée par Denis Podalydès, alias Nicolas Sarkozy, dans le film La Conquête, présenté aujourd'hui à Cannes, hors compétition. Une réplique qui a eu le mérite de déclencher les rires et les applaudissements lors de la projection de presse à Cannes. Le film de Xavier Duringer a été globalement bien accueilli, notamment par les nombreux journalistes étrangers. C'est le premier film de cinéma en France à mettre en scène un président en exercice.
Tous les jours,
oui.
À partir de 11h,
si on a des grosses fesses, on va vivre vieux.
Le fou du roi.
Il faut être maigre avec un gros cul.
Stéphane Bern.
C'est vrai pour les femmes.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Ariel Dombal et Irina Brooke, rendez-vous demain jeudi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Je suis pas du tout d'accord.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Le Fou du Roi.
Oui.
Tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. La différence.
16h04 sur France Inter lors de votre rendez-vous avec Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, je recevrai le grand violoniste Didier Lockwood, plutôt homme de jazz, de violon électrique, etc., etc. Mais enfin, point de barrière, il va nous parler de violon, chant du monde, dans le Calaisis. Une manifestation très riche entre le 25 et le 28 mai. Et auparavant, bien, nous allons célébrer Gustav Mahler et commémorer le 100e anniversaire de sa mort, exactement, le 18 mai 1911. Alors, il était né dans une petite ville, aujourd'hui en République tchèque, dans l'Empire d'Autriche, à Kalisté, et puis il est mort à Vienne, donc c'est un compositeur, pianiste, chef d'orchestre, célébrissime, et de plus en plus, je dirais, parce qu'on avait un peu oublié Gustav Mahler, était plus célèbre en son temps comme chef d'orchestre, d'ailleurs, et peut-être qu'il en souffrait, parce que aujourd'hui on le considère surtout comme un compositeur de dimension magnifique, et surtout dans le domaine de l'orchestre, et il a jeté un pont entre la fin du 19e siècle et la période moderne. Il a écrit 10 symphonies, la 10e est incomplète, un seul mouvement, et vous pourrez d'ailleurs l'entendre ce soir sur Arte, un très beau concert dirigé par Claudio Abbado. On pourra l'entendre aussi au concert donné par Daniel Barenboim à la salle Pleyel samedi, et bon, il donnera aussi Beethoven conjointement. Voici un extrait de la première symphonie Titan de Gustav Mahler. Alors, il a essayé petit à petit de gommer par les titres, mais enfin les programmes autour de ses œuvres. Au début, il s'appuyait certes sur des trames littéraires ou autres, mais petit à petit, il voulait qu'on considère sa musique comme une musique en soi, comme une musique pure, puissant, agitée.